Nous amenons tout de suite à notre micro Ray Lalonde. Salut Ray.
Salut Paul.
Ben oui, justement. Salut, alors, on va poursuivre tout de suite avec l'un de tes premiers sujets aujourd'hui, notamment le basketball, la puissante NBA qui approuve les mouvements et gestes de joueurs dans cette lignée des Black Lives Matter.
Oui, ça c'est un geste important parce que la NBA est toujours à l'avant-garde des situations sociales, politiques, sportives et tout ce croisement-là. Alors, ils ont été très efficaces dans la gestion. Les athlètes se sont prononcés. En passant, Lewis Hamilton, c'est un des athlètes au niveau mondial qui a été le plus visible, qui a été le plus expressif contre la cause, contre l'injustice sociale. Alors, il faut le féliciter. C'est rien qui m'étonne dans son cas. Il agit en tant que leader, en tant que champion du monde. Il prend ses responsabilités, puis il se prononce. Alors, faut le féliciter pour ça. La NBA a approuvé là, pour le début du retour au jeu à Orlando, à Walt Disney World, sur les terrains, on va, de façon permanente, avoir une impression sur les lignes de côté Black Lives Matter. Ça, c'est les trois terrains qui vont être utilisés. On va le voir comme si c'était un logo corporatif. Ça, c'est un premier geste qui est très important. Mais surtout, dans la lignée des efforts qu'ils ont fait dans le passé, de laisser les joueurs être plus autonomes et d'avoir plus de leur propre créativité dans le jeu, on va laisser les joueurs faire une déclaration, si on veut en anglais, un statement, qui va être placé à l'arrière du chandail du joueur, qui pourrait remplacer le nom du joueur. Des choses comme « I can't breathe »,« Justice »,« Freedom »,« Respect us »,« I am a man »,« Anti-racist ». Bon, alors il y en a plus de 25 qui ont été approuvés par la Ligue. Et les joueurs vont pouvoir choisir parmi ceux-là et même remplacer leur nom de famille qui normalement apparaîtrait sur le chandail. Alors ça, ça va être durant la durée de ce retour au jeu-là avec les 22 équipes à Walt Disney World.
Et on va, puisqu'on est dans la NBA, on est capable maintenant de chiffrer à peu près l'ampleur de la reprise des activités dans ce qu'on appelle la bulle qui va servir à la NBA pour relancer ses opérations. Ça va coûter cher.
C'est un très bon point, Paul, parce que tu sais, les gens se disent, ouais, il y a un retour au jeu au hockey, au baseball qui va recommencer, puis évidemment, il va y avoir des conditions très, très rigides. Mais ceci étant, il y a un coût qui vient avec ça. Le coût de tester des joueurs à tous les jours. Le coût de les mettre dans les trois plus gros hôtels à Walt Disney World, un joueur par chambre, à des endroits différents, et d'avoir littéralement une espèce de bulle d'une planète qui est parallèle, où tu ne peux pas sortir de là, puis tout est contrôlé, puis tout le personnel qui est engagé, ça demeure le même personnel durant la durée du tournoi. 150 millions de dollars pour la NBA.
Ouh, 150! Là, comme tu me soulignais dans un courriel, pourra pas refaire ça l'année prochaine. Là.
Non.
Ben, c'est donc, il faut... C'est un événement unique. Il va falloir que l'année prochaine, ça soit autre chose.
Oui, parce que comme, c'est le cas au hockey aussi. Même si ça ne coûtera pas 150 millions, ça va coûter des dizaines de millions. La raison, c'est que c'est beaucoup de complexité et de logistique qui doivent être gérées quotidiennement pendant à peu près 2 mois et demi.
Oui.
Alors, c'est long. C'est beaucoup de monde, 500, 600, 700 personnes, selon la où on est rendu dans les séries, si on veut. Alors, Adam Silver, là, comme ça, l'a déclaré cette semaine, il dit, moi, c'est sûr que ce modèle-là, c'est cette année. Cette année, parce qu'on sentait l'obligation de revenir au jeu, d'offrir aux partisans, aux consommateurs, une occasion de se divertir, de tenter de refaire un peu nos coffres économiques. Il a tout dit, là. Mais il dit, on peut pas répéter un modèle de dépenser 150 millions de dollars pour rejouer.
Ben oui.
Si l'an prochain, la pandémie est aussi sévère.
Il peut pas refaire ça.
Ouais, non, il peut pas refaire ça, mais il est quand même très lucide aussi parce que si jamais la sécurité des joueurs et des membres du personnel de chacune des équipes, Adam Silver l'a dit, on n'hésitera pas, Paul et Ray, de mettre un terme à la saison de ce plan de relance.
C'est le premier qui l'a mentionné ouvertement que malgré toute la planification qui dure depuis le 12 mars dernier, il est tout à fait prêt à si on veut, excusez-moi l'expression, tirer la plug.
Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. J'en ai glissé un mot un peu plus tôt dans l'émission. C'est pas tout le monde là qui est prêt à revoir le sport, les sports majeurs, à n'importe quel prix. L'exemple que je donne, Ray, aujourd'hui, élection au Japon, très importante élection au Japon. Parmi les candidats et candidates, il y a cette candidate de Tokyo qui revendique l'annulation des Jeux olympiques prévus pour le 21 juillet, c'est-à-dire la cérémonie d'ouverture, en 2021. Il y aurait, semble-t-il, plus de la moitié des gens qui habitent à Tokyo, Ray, qui sont tellement inquiets de voir la situation de la pandémie du coronavirus qu'ils se disent, arrêter d'imaginer qu'on va accueillir les Jeux olympiques en 2021. Donc, un mouvement d'opposition à la tenue des Jeux de Tokyo.
Moi, ma réaction à ça, Paul, c'est que c'est pas étonnant. Il y a toujours des gens qui vont aller à droite, des gens qui vont aller à gauche, à tous les niveaux. C'est pas tout le monde qui est en faveur du retour de gens dans des stades. Puis pourtant, il y en a qui sont prêts, peu importe le risque, à aller se coller sur des gens pendant 3-4 heures de temps. Alors, finalement, on en a de tous les goûts. Puis ça, le dossier des Jeux olympiques à Tokyo, c'est un dossier très cher. C'est des milliards de dollars qui sont sur le dos de la ville de Tokyo puis du gouvernement du Japon pour le moment. Et puis, on peut bien reporter à plus tard, mais on est loin d'être certain que les conditions vont être meilleures l'an prochain. Alors, c'est une prise de position politique. On mêle souvent politique et sport pour se positionner. Et c'est ça qu'elle a fait.
Ouais. Et Ray, tu parles de foule dans les stades. Roland Garros, qui devrait avoir lieu à la fin du mois de septembre, eux, ils vont commencer à vendre des billets le 9 juillet, c'est jeudi prochain tout ça là. Puis ouais. Ils espèrent accueillir quand même une bonne partie des foules habituelles. On parle de 60% des foules habituelles qui pourraient assister au tournoi cette année.
Depuis le début de la pandémie, ce qu'on observe, c'est un terrain de jeu là, évidemment inégal d'un pays à l'autre, d'un sport à l'autre. Il y a deux semaines, à Talladega, en Alabama, il y a eu 5-6 000 personnes qui ont été admises dans une des courses de NASCAR. C'était une première tentative, dans un stade qui pouvait en contenir 80 000. Tu sais, on se dit, bien, si on commence lentement, puis on y va peu à peu, on va peut-être réussir notre coup de graduellement ramener les spectateurs dans les gradins. La NFL pense sincèrement à l'approche de la saison, à presque deux semaines, qu'eux autres vont avoir des partisans dans les gradins en début septembre à la fête du travail.
Ouais, mais tu vois, ils reportent cependant la moitié du calendrier pré-saison annulé.
Ouais.
Il y a des joueurs qui ne voudraient même pas de match pré-saison.
Exact.
Et qu'on passerait tout de suite à la saison
régulière. De toute façon, les joueurs de football détestent les camps d'entraînement, détestent les matchs pré-saison parce que, de toute façon, les joueurs réguliers ne jouent presque pas. Mais pour revenir à Roland Garros, en France, en Espagne, en Italie, on a, mettons, aplani la courbe. On a eu une crise majeure au début, et puis graduellement, je parlais à un de mes amis en Espagne hier qui me disait 90% des gens sont restés confinés de façon disciplinée pendant plus de 3 mois.
C'est vrai.
Ah, il me l'a dit directement, il dit, je comprends pas ce qui se passe en Amérique.
Mais il a raison, à Madrid se dirigeait vers
une catastrophe
digne de ce qu'on a vu dans le nord de l'Italie. Et les Espagnols ont été probablement, parmi tous les citoyens de pays européens, les plus disciplinés. Ouais. Ça a sauvé la mise, même s'ils ont eu, malheureusement, un triste bilan.
Alors, Roland Garros s'attend à mettre des gens dans les gradins. Ils vont vendre des billets, ils vont vendre jusqu'à 60% puis jusqu'à 10 000 personnes pour la finale. Mais dans la lignée des tournois de la ATP, dans l'espace de 4 semaines, t'as l'US Open à New York qui ont déjà déclaré que l'événement va avoir lieu, mais sans spectateurs, suivi d'Italie, un Masters 1000, suivi de Madrid, un Masters 1000, suivi de Roland-Garros. Alors, pour les joueurs de tennis, c'est intense, ils ne pourront pas tous jouer. Pour les fans, c'est merveilleux parce que c'est 4 tournois de haut niveau, mais ça va nous mettre en comparaison avec ce qui se passe dans un pays versus un autre. Mais Roland-Garros, à mon avis, c'est un peu prématuré, mais s'ils sont en mesure de mettre en place les consignes puis l'espèce de structure médicale nécessaire, tant mieux pour eux.
Alors, et ça nous amène... Ah, je vous fais juste une remarque, messieurs et Thérèse. Nous, on regarde ça, évidemment, le son est coupé, là. Mais je regarde du coin de l'œil. Mm-hmm. Voilà un sport qui s'adapte très bien au fait qu'il n'y a pas de spectateurs. Ça ne change absolument rien. Le Grand Prix qu'on regarde en ce moment, là, nous, en direct, Thérèse, que vous en pensez?
Mais oui, ça ne change rien parce que...
Ça ne change absolument rien.
On voit le combat entre deux voitures, puis il y a pas de, on n'entend pas les spectateurs, là, on n'a pas. Non.
Exactement.
Puis en plus, ça peut être télédiffusé, donc ça peut être très payant. Ouais,
mais Thérèse, là-dessus, c'est un excellent point. Parmi tous les sports, et j'en consomme du sport, là, Yannick aussi, on fait ça à tous les jours de nos vies, il y a deux sports qui se diffusent mieux que ce que se voit en personne. La F1 puis le golf. Au golf, tu peux voir chacun des coups, et tu peux voir même l'inclinaison du gazon, tellement la caméra en haute définition est de qualité. Mais la F1, c'est tellement mieux à la télé que sur place. Puis c'est pas parce qu'on n'a pas une expérience unique de voir des bolides circuler à 350 km/h. C'est qu'à la télé, tu vois tout. Les caméras sont partout. La diffusion est extraordinaire. La production est de haut de gamme. Sur place, ça fait vroom vroom, puis il faut que tu attendes 2 minutes avant qu'il y ait un autre vroom vroom.
Et qu'il y ait des spectateurs ou non, on s'en fout. Je parle du point de vue du téléspectateur.
Absolument. Exact, oui.
Tandis que dans un sport comme le hockey, le football de la NFL, le football universitaire américain, oui, tu as besoin de la foule pour énergiser le téléspectateur.
Ben, ils font quasiment partie du spectacle sur les lignes c'est de vrai. Côté. Dans la NBA aussi, ils sont proches. Mais dans la F1, les gens sont un peu éloignés. Mais c'est une excellente observation. C'est pour ça que la F1 a une bonne chance s'ils sont capables de garder les écuries disciplinées. Puis cette semaine, il n'y a eu aucun test positif dans les 5-6 derniers jours dans la F1, ce qui leur permet d'aller en Autriche aujourd'hui
et compétitionner. Et on regarde les images de ce circuit en Autriche et on voit les mesures qui ont été prises par les autorités. Tous les ingénieurs, tous les mécanos portent le masque, le protège-visage. Ils ont même une visière par-dessus. Et hier, après la séance de qualification, les trois pilotes qui ont obtenu les trois meilleurs temps étaient à 2 mètres de distance en attendant leur tour pour aller parler à un journaliste qui, lui aussi, était à 2 mètres de distance, voilà. Assez qu'on entendait les pilotes. Ils comprenaient pas trop la question parce qu'il était loin puis tout ça. Mais on a pris toutes les mesures et comme Ray, tu l'as dit, aucun test positif sur 4000 tests effectués dans l'espace d'une semaine.
Ouais.
C'est une toute autre chose qu'on voit, par exemple, dans la MLS, dans la NBA, au Major League Baseball, David Price qui se retire hier.
Ouais.
Les gens sont très nerveux. Il y a un haut niveau en Amérique du Nord d'inconfort. Puis, Paul, c'est lié directement à ce qu'on voit devant nos yeux aux États-Unis.
Alors voilà. Et il y a une ligue qui est inquiétante. Parce qu'on s'inquiète, Yannick Bouchard avait beaucoup parlé. C'est la MLS qui implique notre équipe ici à Montréal, l'Impact. Il y a des mystères, là, parce que le tournoi va débuter dans quelques jours. Quand tu dis que l'équipe de Vancouver, les Whitecaps, vont arriver pratiquement à la dernière minute, vont sauter sur le terrain et vont commencer le tournoi, plusieurs équipes avec des cas de COVID-19 dans l'équipe.
Ouais, ben le premier cas le plus urgent, c'est FC Dallas. C'est eux qui devaient jouer contre les Whitecaps dans le premier match. Ils ont 6 joueurs. Ils n'ont même pas pratiqué depuis cette semaine. Et l'autre, c'est Toronto FC, qui est encore à Toronto. Ils n'ont pas pu prendre leur vol. Ils devaient être hier, devaient être aujourd'hui. Je ne sais même pas s'ils vont pouvoir quitter aujourd'hui. Imagine pas, là. Ça devait commencer cette semaine qui arrive, là. Alors, c'est problématique pour la MLS dans son ensemble, parce que eux, leur choix, c'était d'aller à Orlando faire un tournoi avant la saison, puis d'en mettre tous les clubs, là. Pareil comme la NBA.
Ouais.
Alors, le problème là-dedans, c'est que les joueurs, encore une fois, d'où ils provenaient, que ce soit un autre pays ou dans une autre ville, forcément, ils devaient suivre les consignes puis se mettre en quarantaine aussi pour être sûr qu'ils testent négatif avant de prendre l'avion avec l'équipe.
Ouais, ouais.
Et ça a été problématique pour plusieurs équipes.
Ben oui, Dallas est passé de 2 joueurs au départ qu'ils ont laissé à Dallas.
Ouais.
Ils débarquent à Orlando, ils en ont 10 en 72 heures. 10 nouveaux cas.
Oui, et puis c'est ça le problème qui est dangereux et qui rend le reste des équipes très nerveuses.
Je veux parler de la Ligue nationale de hockey parce qu'on n'a jamais autant parlé d'une possible prolongation de convention collective. Et hier, après notre discussion, Ray, je me suis posé la question suivante. En temps normal, est-ce que Gary Bettman, le commissaire, aurait eu le même comportement avec l'association des joueurs, c'est-à-dire est-ce qu'il aurait été un petit peu plus difficile dans ses négos avec M. Donald Fear, ou en ce moment, il le sait très bien qu'il y a des équipes qui sont en pleine crise financière parce qu'il y a des équipes que ça va pas bien, et là, ben, il n'y a pas ben le choix d'accepter tout ou à peu près tout et d'en arriver à une entente avec les équipes et les joueurs.
Ouais, ben c'est effectivement très très pointu puis très pertinent ce que tu dis. C'est sûr que Bettman s'est ajusté, mais c'est la capacité d'un bon leader, c'est d'être adaptable. Alors, je pense qu'il n'y a aucune considération, puis on ne devrait pas juger Bettman ou un autre. Moi, je ne suis pas un fan de Bettman, mais je suis certainement pas contre Bettman. Je trouve qu'il a réussi un virage en ses 26 ans comme commissaire. Il a transformé la Ligue nationale de hockey d'une business de 400 millions à une business de 4,8 milliards de dollars. Donc, c'est significatif. Alors, il faut lui donner un peu de crédit. Il s'est ajusté. C'est sûr qu'il aurait négocié plus dur pour les Olympiques. C'est sûr.
Ouais.
C'est sûr qu'il aurait demandé au CEO là, de vraiment là, suer pour leur donner ce qu'ils voulaient. Mais tu sais, là, c'est pas le temps de négocier dur, c'est le temps de trouver une solution avec Donald Fear, puis les deux ont réussi, alors bravo.
Alors, merci beaucoup, Ray Lalonde.
Merci,
et
Ray.
On va se reparler le week-end prochain, Ray. Merci, bonne semaine.
Avec plaisir. Bon week-end, tout le monde.